VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce 22 juin 2015.
La communauté internationale salue la signature de l'accord de paix au Mali par la coordination des mouvements de l'Azawad. Prochaine étape, la mise en œuvre.
Il faut détailler comment est-ce qu'on va faire le développement, comment est-ce qu'on va vraiment sécuriser ce pays, comment est-ce qu'on va intégrer, pas seulement les services militaires, mais intégrer la culture, la compréhension nationale.
Bissa Williams, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines, qui représentait les États-Unis à la cérémonie de signature à Bamako.
4 mois pour préparer les élections en Centrafrique. L'archevêque de Bangui appelle tous les acteurs électoraux à s'activer.
Il faudrait que chacun se dépêche, non seulement par sa bonne volonté, mais en mettant les moyens nécessaires pour qu'on réalise ce challenge.
Monseigneur Dieudonné Nzapalenga.
Les pays africains préparent leur feuille de route pour la prochaine conférence internationale sur le réchauffement climatique.
Nous voulons qu'il y ait un accord qui puisse vraiment contraindre les pays développés, que ces pays puissent vraiment limiter leurs émissions de gaz à effet de serre.
Credo Comigan Aizé, membre des Jeunes Volontaires pour l'Environnement Togo.
Reprise du dialogue politique en Guinée pour permettre à la CENI de confirmer l'annulation du chronogramme des élections communales.
Et avant la Minute Éco et les sports, les informations.
Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a signé samedi à Bamako l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Cette signature s'ajoute à celle des médiateurs et du gouvernement malien. La médiation a été ainsi transformée en comité de suivi qui se réunira tous les mois à Bamako pour l'application de l'accord signé par tous les protagonistes de la crise malienne. Plus de précisions avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Au nom de la CEMA, c'est Mamadou Djeri Maïga qui s'est adressé à l'assistance.
La CEMA se réjouit aujourd'hui d'être parmi vous pour procéder à la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et c'est l'occasion pour la CEMA de rappeler qu'une paix ne se gagne jamais uniquement à partir d'une simple signature. Elle naît du respect des engagements qu'a prescrit cette signature, de la bonne foi et de la volonté politique des parties concernées. Quant à la réconciliation, elle se signe dans les faits, dans la bonne cohabitation, dans l'intériorisation du statut particulier de l'être humain.
Maître Aruna Touré, porte-parole des mouvements d'autodéfense, membre de la plateforme d'Alger.
Et puisque nous sommes tous frères et sœurs de sang malien, ensemble nous prendrons d'assaut les villes et les campagnes du Nord Mali pour y créer, animer des cellules, des comités dynamiques pour le pardon, la paix et la réconciliation.
Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le plus dur est à venir. Monji Amdi, chef de l'aménagement.
C'est au gouvernement du Mali, à la coordination et à la plateforme, de joindre maintenant l'acte à la signature.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burundi, le week-end a été calme à Bujumbura après une journée agitée et une nuit de psychose vendredi. Néanmoins, un climat de tension persiste dans la capitale et dans certaines villes de province, alors que les forces de sécurité essaient de prévenir de nouvelles manifestations en ce début de semaine. C'est le constat fait par des journalistes sur le terrain. Chérubin Dorcy l'a joint l'un d'eux, Vincent Keshimana.
Bon, c'était la messe comme d'habitude. J'ai pas remarqué de particularité par rapport à d'autres jours. Sauf qu'il y a des mouvements de gens qui vont à l'intérieur à défaut d'aller à l'extérieur. Donc, c'est toujours la peur qui est là.
Alors, plus de manifestations?
On rapportait ce matin qu'il y a des renforts de militaires dans certains quartiers, notamment à Ngagara. Ce qui laisse croire que c'est une stratégie de confiner davantage les manifestants parce qu'ils ont déployé des contingents dans les quartiers pour contenir des gens, éviter que des personnes aillent dans la rue. Et donc, tout ce renfort, ça veut dire qu'il n'y a pas de manifestation visible. Ça ne veut pas dire que les choses sont arrêtées, mais il n'y a pas de manifestants visibles. Le pays s'achemine tout doucement vers les élections, mais la grosse interrogation, là, aujourd'hui, c'est combien sont dans la disposition de pouvoir voter.
Vincent Keshimana, membre de l'association burundaise des radiodiffuseurs.
En Centrafrique, les autorités ecclésiastiques lancent un appel à la communauté internationale en vue d'un soutien continu au processus électoral. 3 jours après la publication d'un chronogramme définitif par l'autorité nationale des élections, l'archevêque de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalenga, dit qu'il n'y a plus de temps à perdre.
si on ne le soutient pas, ce processus-là, on risque de retomber encore dans nos travers. Le chemin qu'on aura fait, eh bien, on va encore reculer de 100 pas. Alors que nous avons fait un grand pas avec le changement d'état d'esprit. Si vous venez aujourd'hui à Bangui, il y a un autre état d'esprit qui s'installe dans la tête des gens.
Moins de 4 mois nous séparent des élections en République centrafricaine. Pensez-vous que le pays sera prêt pour cette échéance?
Un pays qui n'existe que 2 ans et qui dépend de la communauté internationale, qui vit sous perfusion, a besoin de concours, cette communauté. Et maintenant, j'ai lancé aussi l'appel aux responsabilités des politiciens pour s'engager résolument à créer un autre climat politique pour favoriser ces échéances qui arrivent. Moi, je suis réaliste en disant qu'il reste peu de temps. Il faudrait que chacun se dépêche, non seulement par sa bonne volonté, mais en mettant les moyens nécessaires pour qu'on réalise ce challenge qui concerne tous les Centrafricains, pour ne pas dire la sous-région et l'humanité, puisque l'ONU est là.
Monseigneur Dieudonné Nzapalenga répondait à Chérubin Dorcil. Rappelons que selon le chronogramme arrêté pour les prochaines échéances électorales en Centrafrique, il y aura un référendum constitutionnel le 4 octobre, suivi du premier tour des scrutins présidentiels et législatifs le 18 octobre et d'un éventuel second tour le 22 novembre.
En Guinée, le dialogue politique ouvert jeudi n'a pas pu se poursuivre samedi. Les discussions sont reportées pour ce lundi afin de permettre à la commission électorale de confirmer l'annulation du chronogramme des élections communales comme souhaité par l'opposition et la mouvance présidentielle de Conakry, Zakaria Camara.
Le dialogue politique se déroule en présence de la communauté internationale. Ibn Chambas, représentant le secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, se dit optimiste.
Nous saluons les disponibilités, les deux côtés, le mouvement et l'opposition, de continuer d'échanger, de dialoguer, trouver des solutions pour qu'on puisse aller aux élections inclusives, transparentes et crédibles.
De son côté, le président du cadre du dialogue, le ministre guinéen de la Justice, rassure que toutes les conclusions seront respectées. Maître Cheikh Sako.
Je tiens à affirmer ici que toutes les décisions arrêtées consensuellement entre les deux parties seront appliquées afin que lundi nous puissions avancer dans le sens souhaité par tous les Guinéens dans notre pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, une personne a été tuée et au moins 17 ont été blessés, dont plusieurs enfants, dans 2 fusillades en 24 heures. Samedi soir, un homme armé a ouvert le feu sur une fête de quartier à Philadelphie, blessant 3 enfants et au moins 5 adultes. Dans un incident similaire dans la ville centrale de Détroit, samedi, un homme armé a abattu un homme de 20 ans et blessé 9 autres personnes lors d'une fête d'enfants sur un terrain de basket. Ces fusillades surviennent après le meurtre de 9 Africains-Américains mercredi dernier dans une église à Charleston en Caroline du Sud.
Et les fidèles de l'église épiscopale méthodiste africaine Emmanuel sont retournés sur place pour la première fois depuis la fusillade meurtrière d'un suprémaciste contre un groupe d'études de la Bible. De nombreux visiteurs étaient présents pour ce service en mémoire des personnes tuées, certains même en provenance d'États aussi éloignés que la Californie.
Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, doit se rendre en Europe cette semaine pour exhorter les alliés de l'OTAN à s'adapter à de nouvelles formes de menaces de la Russie et du groupe État islamique. Il se rendra en Allemagne, en Estonie, en Belgique pour encourager les ministres alliés à mieux travailler ensemble afin de parer aux menaces auxquelles l'Europe est exposée. Lors d'une réunion de l'OTAN, les ministres de la Défense vont discuter des plans pour accroître la participation de l'Alliance dans la lutte contre le groupe État islamique en Irak.
Enfin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, rencontre aujourd'hui plusieurs homologues de l'Union européenne avant la date limite du 30 juin pour un accord international sur le programme nucléaire de Téhéran. Les entretiens auront lieu en marge d'une plénière des ministres européens des Affaires étrangères qui discuteront des sanctions contre la Russie sur le conflit en Ukraine et du lancement d'une opération navale de ciblage des trafiquants d'êtres humains dans la région de la Méditerranée.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco vous est présentée par Félix Yepassi-Zembrou.
Préoccupante la situation économique aux Comores selon l'OCDE et le PNUD. Le gouvernement a promis des produits bon marché à l'occasion du Ramadan, mais les privations d'eau et d'électricité vont s'aggravant et la population est à genoux. La crise perdure depuis une quinzaine d'années, affectant particulièrement les petits commerces alimentaires, ceux pour lesquels d'ordinaire le Ramadan est aussi la fête du tiroir-caisse. Mais la situation s'est aggravée ces derniers mois. Au Maroc, un numéro vert vient d'être lancé pour favoriser la dénonciation de la corruption. Ce fléau continue de sévir malgré une progression du pays l'an dernier dans les classements internationaux. D'après l'agence MAP, les appels seront automatiquement transférés à des magistrats spécialisés chargés de procéder à l'enregistrement des informations. Les dossiers seront ensuite transmis au parquet compétent pour prendre les mesures judiciaires qui s'imposent. L'Italie a mis la semaine dernière à la disposition du gouvernement sénégalais une enveloppe de 11,808 milliards de francs CFA, environ 18 millions d'euros, destinée au nouveau programme agricole Italie-Sénégal, PAJS. La convention de financement dans ce sens a été signée en marge de l'ouverture officielle de la revue annuelle conjointe de la coopération Italie-Sénégal par Amadou Ba, ministre de l'économie, des finances et du plan, et Roberto Calamino, ministre plénipotentiaire et directeur du bureau Afrique du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
Merci beaucoup Félix pour la Minute Éco. À présent les sports avec Élisée Ungpatin. Bonjour Élisée.
Bonjour Nathalie.
On commence par les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2016, résultat du tour préliminaire.
Une compétition réservée aux joueurs locaux. Dans la zone nord, le Maroc et la Tunisie ont fait match nul 1 but partout. Dans un tournoi à 3 qui a vu la Libye battre plus tard la Tunisie 1-0. Dans la zone ouest, le Sénégal est venu à bout de la Gambie 3-1. L'Éthiopie a battu le Kenya 2-0 dans la zone centrale est. Et au sud, l'Afrique du Sud écrase l'île Maurice 3-0. 5-1 pour Mozambique qui affrontait les Seychelles et nul 2 buts partout entre le Swaziland et l'Angola. Précisons que ce championnat d'Afrique des Nations aura lieu en 2016 au Rwanda et ses équipes seront qualifiées à l'issue de ces éliminatoires.
Mondial féminin de football, le Cameroun éliminé en 8e de finale.
Après un brillant parcours, les Lions indomptables se sont arrêtés en 8e de finale puisque battus par la Chine 1-0. Un parcours tout de même inespéré pour leur première participation. Pour les autres résultats de ces 8e de finale, notons entre autres la qualification de l'Allemagne double vainqueur de cette compétition qui a battu la Suède 3-0. Même score pour la France qui était face à la Corée du Sud et surtout de l'élimination du Brésil battu par l'Australie 1-0.
Une autre Coupe du Monde, celle des moins de 20 ans qui a pris fin samedi.
Effectivement Nathalie, avec le sacre de la Serbie, vainqueur du Brésil en finale sur la marque de 2-1 après prolongation et un tournoi qui a vu briller deux équipes africaines, le Mali et le Sénégal qui ont en effet complété le dernier carré. Les Aiglons au Mali s'offrant la médaille de bronze pour le match de la troisième place. Ils ont battu les Lionceaux sénégalais 3-1. Le Mali termine ainsi troisième d'une Coupe du Monde junior après celle de 1999 qui a eu lieu au Nigeria.
On reste sur le continent africain, Élisée. L'espérance de Tunis, un nouvel entraîneur.
Il est français, Nathalie. José Aningo, c'est son nom. Et il s'est mis d'accord avec les dirigeants espérantistes pour diriger le club lors des deux prochaines saisons. L'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille va donc vivre sa première expérience africaine. Un continent qu'il connaît bien pour y avoir joué cette année le rôle de superviseur pour l'OM.
Et on se dirige à présent au Chili pour parler de la Copa América.
Un tournoi qui connaît déjà ses qualifiés pour les quarts de finale. Dans le groupe A, le pays hôte, Chili et la Bolivie, groupe B, Argentine et l'Uruguay, et le groupe C, le Brésil et le Pérou. Les deux meilleurs troisièmes ont pour nom l'Uruguay et la Colombie. Ainsi, en quart de finale, Nathalie, qui va démarrer mercredi prochain, on aura Chili, pays organisateur contre Uruguay, tenant du titre, Paraguay, Brésil, Bolivie, Pérou et surtout un Argentine-Colombie.
Merci beaucoup, Élisée Ungpatin, pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Washington salue l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali. Dans un communiqué, le département d'État félicite toutes les parties pour leur engagement à résoudre leurs différends par le dialogue. Idriss Fall, notre envoyé spécial à Bamako, a recueilli la réaction de Bissa Williams, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, qui a représenté les États-Unis à la cérémonie de signature samedi dans la capitale malienne.
Ce qui reste au peuple malien et aussi à la communauté internationale, vraiment, c'est la mise en œuvre de cet accord. C'est la construction de la réalité de cette paix.
La mise en œuvre, ce sera quand même assez laborieux, même difficile.
Oui, c'est très difficile, mais ce n'est pas impossible. On a fait tout le travail nécessaire pour achever que tous les partis s'alignent avec l'accord. L'idée d'avoir la paix au Mali. Maintenant, ces mêmes partis vont travailler ensemble. Il faut élaborer, il faut détailler comment est-ce qu'on va faire le développement. Comment est-ce qu'on va vraiment sécuriser ce pays? Comment est-ce qu'on va intégrer, pas seulement les services militaires, mais intégrer la culture, la compréhension nationale pour que chacun accepte et embrasse l'autre? C'est un long travail, il y a les détails spécifiques, le développement, la sécurité, la régionalisation, et les questions humanitaires, etc.
C'est des partis qui se battent depuis très longtemps. Comment rétablir la confiance?
Le premier pas a été déjà pris avec la signature de tous les partis importants, les parties prenantes de l'accord. Ça, c'est une première phase. Et le grand repas que le président Ibeka a offert à toutes les parties après la signature le 20 juin était un très grand geste, très beau aussi, d'indiquer qu'on va manger le pain ensemble. Mais il y a les autres actes qu'il faut faire aussi. Les communautés différentes du Mali voient qu'il y aura un changement dans leurs conditions de vie. Ça va augmenter la confiance d'un groupe à l'autre. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement les rebelles, par exemple, qu'il faut avoir de confiance dans le gouvernement, mais aussi il faut aussi que le gouvernement s'ouvre, qu'il ait confiance dans le mot, dans la comptabilité de ces groupes de la rébellion. Et aussi que la société civile prenne son rôle aussi. C'est un travail de communication, un travail aussi de s'ouvre l'un à l'autre.
Par le développement, j'ai entendu le président Ibeka dire on va avoir une route qui va partir de Bamako à Kidal. Et je sais que le Mali n'a pas cet argent. Les États-Unis vont jouer un rôle pour apporter l'argent.
Nous avons beaucoup soutenu tout le processus de la paix et de la négociation. On a essayé aussi de communiquer avec tous les intéressés pour indiquer que les États-Unis, nous sommes des amis des Maliens. Et nous voulons un seul Mali qui soit uni à paix. Oui, on va continuer à travailler avec les Maliens, aussi appuyer le développement et la mise en œuvre de cet accord.
Bissa Williams, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires africaines. Le samedi 20 juin 2015 marque une étape capitale dans l'histoire du Mali, la CMA ayant finalement accepté de parachever le processus de signature de l'accord de paix et de réconciliation devant la communauté internationale à Bamako. Comment voit-on le processus de paix dans le nord du Mali? Un élément de réponse dans un reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
La CIMA a accepté de signer le document de paix et de réconciliation au Mali le samedi dernier à Bamako devant la communauté internationale. À Gao, nous avons tendu notre micro à certaines personnes. Les avis restent partagés.
C'est d'abord une réaction de joie et d'allégresse. Joie pour tout le monde, ça vous le savez déjà. Des remerciements à l'endroit de tout le monde.
On est content, on veut qu'ils viennent pour qu'on travaille ensemble. Il ne faut pas qu'ils restent derrière la ville avec les armes. Ils n'ont qu'à revenir, on est prêt à les pardonner. Ils n'ont qu'à venir, on va travailler ensemble. On est content de l'accord aussi.
Je suis très content, très félicité CMA avec son effort parce qu'il a signé les accords de la paix. C'est très beau vraiment. Bon, déjà, le Mali, là, c'était un pays pardonné. Mali pardonne tout le monde.
Les autres, quant à eux, restent encore perplexes.
Moi, j'ai signé l'accord, mais on n'a pas vu la peine d'abord. Parce que jusqu'à présent, ils ont leurs armes avec eux. Pour avoir la peine, il faut que on voit les gens, chacun part là où il veut, il vient là où il veut. C'est en ce moment-là qu'on est d'accord et on est content qu'il y aura la paix. On a confiance lorsque la paix est restée. respecter. Quoi. Ils vont déposer les armes, on va revenir des frères comme avant, on va les pardonner.
Personnellement, je n'ai pu comprendre un seul instant au cours de cette cérémonie d'hier l'absence marquée du numéro 1 du MNLA, Bilal Ag Ashérif. La paix, à mon sens, n'est pas un simple slogan, c'est plutôt un comportement. Le préalable pour nous aujourd'hui, c'est la cessation des hostilités et que le drapeau du Mali flotte partout sur la République, de Kidal à Menaka, en passant par Abeibara, Tinsako, Aguelhok, Bay, Gargando, Tinesha, etc.
Pour le troisième groupe interrogé, cette signature de l'accord de paix ne doit pas faire oublier les nombreux crimes perpétrés ça et là.
On a signé d'accord, mais pour qu'il y ait cette paix que nous souhaitons, il faut que cette justice soit rendue d'abord, pour qu'au moins on se réconcilie et que nous soyons un et indivisibles. Parce qu'il y a eu des violations, il y a eu beaucoup de crimes. Tant qu'il n'y a pas la justice, personne n'aura confiance à son prochain.
D'où cet appel au gouvernement malien et à la communauté internationale.
Le gouvernement malien doit prendre aussi ses responsabilités et respecter ses engagements. Veiller sur la sécurité des biens et des personnes du CAI à Kidal, sans exclusive. À la communauté internationale également, nous demandons de jouer pleinement sa partition, sans parti pris. À ce prix, nous nous engagerons à les accompagner pourvu que la paix soit chez nous.
En tout cas, le plus dur reste encore à venir pour les 16 millions de Maliens qui doivent se réconcilier avec l'accompagnement de la communauté internationale. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Guinée, les discussions devraient reprendre aujourd'hui pour permettre à la CENI de confirmer l'annulation du chronogramme des élections communales, comme l'a souhaité l'ensemble de la classe politique. Plus de précisions dans le reportage de Zakaria Camara à Conakry.
La rencontre a duré 2 heures, alors que la confirmation de l'annulation du calendrier des élections communales était attendue. Le président de l'institution chargé d'organiser les scrutins a souhaité avoir les conclusions globales du dialogue pour prendre une décision finale. Malgré ce premier couac, l'opposition garde espoir. Mamoudouba Badiko, un de ses représentants, pense qu'il faut aller à l'essentiel.
Nous n'avons pas pu continuer les discussions et nous espérons que lundi, le terrain sera totalement déblayé et que nous aurons un acte en bonne et due forme permettant d'aborder les 9 points inscrits à l'ordre du jour du dialogue.
Aborder les points inscrits à l'ordre du jour ? Possible, mais faut-il que la CENI confirme le consensus obtenu par la classe politique? Pourquoi n'a-t-elle pas annulé le chronogramme samedi? Amadou Damaro Camara de la mouvance présidentielle justifie la réponse du président de la CENI.
La CENI, après sa plénière, a trouvé qu'elle avait encore des difficultés techniques et juridiques d'annuler le chronogramme qui a été établi. Et si elle devrait donc l'annuler, il faut que la CENI ait au moins une indication de la périodicité des élections souhaitées.
Le dialogue politique se déroule en présence de la communauté internationale. Ibn Chambas, représentant le secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, se dit optimiste.
Nous sommes vraiment contents de la professionnalisme et l'équidistance démontrée par la médiation et c'est très important. Nous saluons les disponibilités, les deux côtés, le mouvement et l'opposition, de continuer d'échanger, de dialoguer, trouver des solutions pour qu'on puisse aller aux élections inclusives, transparentes et crédibles.
De son côté, le président du cadre du dialogue, le ministre guinéen de la Justice, rassure que toutes les conclusions seront respectées. Maître Cheikh Sako.
Je tiens à affirmer ici que toutes les décisions arrêtées consensuellement entre les deux parties seront appliquées afin que lundi nous puissions avancer dans le sens souhaité par tous les Guinéens dans notre pays.
Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
À l'heure où chaque État élabore sa feuille de route pour la prochaine conférence internationale sur le changement climatique qui se tiendra à Paris, le Togo est parmi les pays africains qui comptent peser dans la balance pour inciter les pays industrialisés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voici le reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
En décembre prochain se tiendra dans la capitale française la 21e conférence mondiale sur le climat. Paris Climat 2015 compte sur l'apport de tous les pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour contenir le réchauffement global. Paris attend beaucoup du Togo, à en croire l'ambassadeur de France au Togo, Marc Fombostier.
J'espère que le Togo pourra jouer un rôle de leader d'opinion en Afrique et aider l'Afrique à se constituer en un bloc un petit peu à part au sein du G77 pour pouvoir peser dans l'accord qui sera obtenu à Paris et permettre qu'on ait une vraie réduction des émissions de CO2 très ambitieuse. Parce que l'Afrique, elle est particulièrement touchée par ce phénomène. Si on ne réussit pas à Paris, on va vers une catastrophe écologique dont les effets directs et indirects sont absolument incommensurables.
Depuis ce 17 juin 2015, le Togo a entamé le processus d'élaboration de sa contribution prévue déterminée au niveau national, CPDN, qu'il devra soumettre en septembre prochain. Stéphane Boufari, chef mission d'appui à l'élaboration de la CPDN du Togo.
Dans cet exercice, le Togo ne part pas de zéro. Il y a énormément de documents que soit des documents d'adaptation, des documents sur l'atténuation, sur les stratégies RAID, sur les stratégies d'agriculture, sur la vision Togo 2030. Donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de matière, mais que cette fois-ci, ça ne va pas répondre à des enjeux sectoriels et ou, j'ai envie de dire, ponctuels. C'est qu'on va rentrer dans une dynamique avec un engagement.
JVE Togo, jeune volontaire pour l'environnement, participe à l'élaboration de la contribution prévue déterminée au niveau national du Togo. Pour cette ONG, il est impératif de limiter le réchauffement climatique. Credo Comigan Eze, chargé des affaires climatiques à JVE Togo.
Nous espérons qu'un accord soit pris qui limite vraiment la hausse de la température parce que nous voulons que notre température ne soit plus élevée. Donc nous voulons qu'il y ait un accord qui puisse vraiment contraindre les pays développés, que ces pays puissent vraiment limiter leurs émissions de gaz à effet de serre afin que nous puissions contenir la hausse en deçà de 2 degrés.
Il faut une adhésion collective pour arriver à réduire les émissions de carbone, pense Volker Berchem, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo.
Le changement du climat, tout le monde dit, oui, c'est un problème grave, il faut faire quelque chose. Mais avant que moi je fasse quelque chose, il faut que quelqu'un d'autre. Tout d'abord, il faut que les pays du monde se mettent sur un accord. Les chefs d'État et de gouvernement, ils ont beau dire, si la population ne participe pas à la mise en œuvre.
Le financement de la lutte contre le changement climatique sera également une composante majeure de la conférence de Paris. Kyle Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
À l'approche de la conférence internationale sur le réchauffement climatique, le pape François se dit profondément préoccupé par cette question et la dégradation de l'environnement dans la deuxième encyclique de son pontificat publiée récemment. Pour une analyse, Chérubin d'Orcil a joint l'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalenga.
Le pape qui a choisi le nom François n'a pas choisi au hasard. François, c'est un homme qui contemplait la nature et qui avait de l'admiration pour le Créateur. Loué soit notre Dieu est le titre de ce encyclique. Le pape a voulu inviter les spécialistes pour venir l'aider à rédiger une encyclique en lien avec ce qui se passe actuellement. Or, si vous regardez bien, ce texte qui nous est proposé, les chapitres sont bien articulés. Il y a beaucoup de thèmes à retenir dans le premier chapitre, par exemple, de notre maison. Il s'agit de notre planète qui est actuellement confrontée à beaucoup de changements. On voit des pollutions, des ordures, des déchets. Je peux prendre le cas de la République centrafricaine. Quand on regarde le fleuve Ubangi, on jette beaucoup et le contraire, les plastiques et tout. Ça, c'est la détérioration de la biodiversité et la qualité de vie des hommes aussi en pâtissent.
Qu'est-ce que l'Afrique peut retirer de cette encyclique?
La question des êtres humains dont parle le pape, l'Afrique est très concernée. Tous ces gens qui exploitent les pauvres, les boat people, pour les amener en Europe et qui s'enrichissent. Si on regarde bien la déforestation abusive dans plusieurs endroits, si on regarde bien aussi la recherche effrénée de l'argent pour les diamants, de l'or, tout ce que nous voyons comme les grandes entreprises qui arrivent aussi en masse et qui étouffent les petites sociétés, le pape en parle. Et les Africains devaient regarder avec beaucoup d'attention ces genres d'analyse et se poser la question du long terme. Quelle nature ou quelle maison allons-nous confier aux descendants? Ce sont les questions que les Africains devaient se poser.
Quelle suite pratique donne-t-on d'habitude à une encyclique du pape?
Il revient maintenant à chaque église parce que dans une encyclique, il y a des messages. On va dire messages universels et chaque peuple, chaque continent peut maintenant s'arrêter et voir quels sont les enjeux, quelles sont les orientations parce que le Saint-Père, il trace la route et maintenant à nous de l'appliquer sur le terrain.
l'archevêque de Bangui, Dieudonné Nzapalenga. Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, secondée par John Ellison à la console. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bon lundi à toutes et à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.